RFI, 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et tout de suite le journal. Bonjour Paul Lonsin-Spinelli.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Au moins 11 morts et une soixantaine de blessés hier après deux explosions à Bukavu dans l'est de la RDC. Cela s'est produit à la fin d'un meeting de l'AFC M23 qui contrôle la capitale du Sud Kivu. Les responsables présents à l'événement avaient quitté les lieux quelques minutes avant. AFC M23 et gouvernement congolais qui s'accusent mutuellement d'avoir commis un attentat. Au Tchad, le flou entoure toujours la mort de Yaya Dillo, l'opposant et leader du Parti Socialiste Sans Frontières, est décédé il y a un an, jour pour jour, lors d'un assaut de l'armée contre le siège de son parti. Ses proches dénoncent un assassinat. Les militants du PSF réclament les conclusions de l'enquête lancée par les autorités. Le gouvernement répète qu'il déplore la mort de Yaya Dillo et dit laisser la justice faire son travail. On reviendra aussi sur cette visite du président éthiopien Abiy Ahmed en Somalie hier, et puis le dossier de ce journal consacré à un trafic illégal mais qui persiste en Côte d'Ivoire, celui de restes de lions et de léopards utilisés par les guérisseurs traditionnels. Dans l'est de la République démocratique du Congo, deux explosions au milieu d'une foule réunie à Bukavu hier. Cet attroupement s'est formé lors d'un meeting de responsables de l'AFC M23, soutenu par le Rwanda, place de l'indépendance dans la capitale du Sud Kivu. Ils venaient de quitter les lieux lorsque les détonations ont retenti. Selon les sources hospitalières, 11 personnes ont été tuées, une soixantaine blessées. Kinshasa et l'AFC M23 évoquent un attentat. Les deux camps ont donc réagit, à commencer par le gouvernement congolais, Blangerie.
Devant la presse hier soir, le ministre congolais de la Santé est revenu sur l'attentat qui a endeuillé Bukavu sans donner de bilan définitif.
Il y a eu un meeting qui a commencé vers 11h à Bukavu et après le départ des animateurs de ce meeting, 4 minutes après leur départ, il y a eu deux détonations qui ont entraîné immédiatement plusieurs morts qui ont été amenés dans nos services immédiatement. Il y avait 7 morts et des blessés graves dont le nombre n'est pas encore complètement déterminé.
Depuis l'attaque, les deux camps se rejettent la faute. Dans un tweet sur la plateforme X, la présidence de la République congolaise a évoqué l'organisation d'un meeting forcé et a condamné, je cite, « fermement cet acte terroriste odieux perpétré par une armée étrangère présente illégalement sur le sol congolais ». Fin de citation. Déclencher une explosion après le départ des pantins tirés sur la même population puis chercher le coupable ailleurs est une autre forme du poison rwandais, a de son côté surenchéri le ministre de la Communication Patrick Muyaya. Une version que réfutent les responsables de l'AFC M23 qui rejettent la faute sur Kinshasa. Selon un communiqué du mouvement politico-armé, deux personnes ont été appréhendées et la traque de tout leur réseau se poursuit avec fermeté.
Paul Lorgerie, le M23 soutenu par le Rwanda, qui contrôle donc Bukavu mais également Goma depuis fin janvier. Des restrictions à la frontière rwandaise au niveau de Gisenyi avaient été mises en place. Chaque jour, après 15h, il était devenu impossible de passer la frontière. Mais depuis, le groupe armé a décidé de revoir cette mesure et cela au bénéfice notamment des commerçants rwandais. Lucie Mouillot.
Assise sur son chariot, Gaudence Mukankundiye attend un nouveau chargement devant la petite barrière. Avec l'extension des horaires d'ouverture de la frontière jusqu'à 22h, plus besoin pour la jeune femme de se presser.
Je travaille depuis 6h du matin jusqu'à 18h. Celui qui veut se reposer, il se repose. Et celui qui veut travailler, il travaille. Nous sommes contents et nous pouvons gagner beaucoup d'argent.
Augmentation des horaires, réduction des taxes à la frontière côté congolais et facilitation des traversées. De nombreux transporteurs rwandais ont plus que doublé leurs revenus quotidiens.
Avant la guerre, nous gagnions entre 6000 et 7000 par jour après déduction de toutes les dépenses. Maintenant, nous recevons entre 15 000 francs rwandais, 20 000 ou même 40 000 selon le travail effectué. Pas de problème, nous obtenons de l'argent.
Mais pour certains commerçants rwandais, la fermeture de l'aéroport de Goma depuis les affrontements fin janvier bloque une partie des activités. Faute de clients dans la boucherie d'Ouassé Réema, beaucoup de marchandises ont été jetées.
Les produits que nous vendions étaient envoyés en RDC à Kinshasa. Mais comme l'aéroport est fermé, il n'y a plus de mouvement vers Kinshasa. Et nous vendons très peu. En plus, les habitants de Goma n'ont plus assez d'argent pour acheter. Nos activités sont presque à l'arrêt.
Dans la boucherie, les frigos sont à moitié vides. Aucun réapprovisionnement de taille n'est prévu avant la réouverture de l'aéroport de Goma, fermé depuis désormais plus d'un mois. Lucie Mouillot, de retour de Gisenyi, RFI.
Et pour tenter de trouver une issue à ce conflit, les responsables des églises catholiques et évangéliques de la RDC se sont rendus hier jeudi à Brazzaville. La délégation a réclamé plus d'investissements de la part du président Denis Sassou Nguesso pour tenter de résoudre la crise entre Kigali et Kinshasa. La RDC, qui avait déposé plainte en France en décembre contre Apple, elle accuse des filiales de l'entreprise américaine d'exporter de façon illégale, voire criminelle, des minerais congolais exploité par le Rwanda. Hier, la justice française a décidé de classer la plainte, estimant que les infractions de blanchiment et de tromperie étaient insuffisamment caractérisées. Les avocats de la RDC ont annoncé faire appel. Une plainte similaire avait aussi été déposée en Belgique.
Afrique Matin sur RFI.
Au Tchad, cela fait un an, jour pour jour, que Yaya Dillo est mort le 28 février 2024. Le président du PSF, le Parti Socialiste Sans Frontières, périssait dans un assaut de l'armée tchadienne contre le siège de sa formation politique. Les autorités tchadiennes avaient annoncé que Yaya Dillo avait succombé à ses blessures après un échange de tirs. Le pouvoir qui accusait l'opposant et cousin du président Mahamat Debi Itno d'avoir mené une attaque contre les locaux des services de renseignement la veille de sa mort. Dans la foulée, ces autorités tchadiennes avaient annoncé une enquête pour tenter de déterminer les causes de ce décès. Les proches de la victime, eux, continuent de parler d'assassinat. Les militants du PSF exigent désormais la libération du secrétaire général du parti, Gam Robert, qui a été arrêté depuis bientôt 6 mois. Écoutez Alifa Youssouf Mahamat, le coordonnateur général du parti PSF de la diaspora.
Yaya Dillo Diroubeti s'est élevé contre l'oppression et l'injustice même au péril de sa vie. Puisque son engagement politique fondé sur une quête inlassable de liberté, d'égalité, de justice et d'équité lui a valu d'être la cible d'un pouvoir militaire qui refuse toute contestation. Concernant l'enquête annoncée par le gouvernement militaire sur son assassinat, à ces jours reste sans suite. C'est une déclaration trompeuse pour endormir la conscience de ceux qui se battent pour la justice de cette figure emblématique. Mais toutefois, le Parti Socialiste Sans Frontières a porté plainte devant la Cour pénale internationale. Concernant l'enlèvement de notre camarade le secrétaire général Gam Robert, incarcéré injustement dans les geôles des services de renseignement, reste flou. Ce qui est vraiment scandaleux et inadmissible, les pouvoirs militaires refusent toute explication officielle. Donc, nous exigeons la libération de Gam Robert avec des enquêtes crédibles et transparentes.
À propos recueilli par Olivier Monodji, correspondant d'RFI à N'Djamena, les autorités tchadiennes qui ont également réagi un an donc après la mort de Yaya Dillo, le porte-parole du gouvernement tchadien Gassim Cherif Mahamat dit vouloir laisser la justice faire son travail et assure qu'une commission d'enquête se met en place. Le ministre dit regretter la mort de cette figure politique, mais indique que les autorités n'ont fait que répliquer lorsqu'elles ont été attaquées.
C'était une situation déplorable qu'on en arrive à la mort d'un chef de parti politique. Mais il faut aussi préciser que c'était dans un contexte où il ne se comportait pas comme un chef de parti politique lambda. Il s'est attaqué aux institutions de l'État et l'État n'a fait que répliquer pour rétablir l'ordre constitutionnel, l'ordre institutionnel. Vous vous souvenez, il avait attaqué le siège de l'Agence nationale de sécurité, l'ANS. Et ça, c'est la première séquence qui a conduit à la mort de Yaya Dillo. Concernant la justice, le gouvernement mettra en œuvre tout ce qu'il faut pour que la justice se fasse dans de bonnes conditions. Mais pour le moment, la justice, elle est saisie par les parties prenantes, c'est-à-dire le parti politique du défunt Yaya Dillo. Je comprends que les familles peuvent s'impatienter. La justice va faire son travail.
Une commission d'enquête pourrait être mise en place?
Tout à fait. La commission d'enquête va se mettre en place. C'est au niveau du ministère de la Justice, elle va se mettre en place avec les différents acteurs. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est déjà en cours.
Gassim Cherif Mahamat. Des relations qui continuent de se réchauffer entre Éthiopie et Somalie. L'ambiance était pourtant diamétralement différente il y a un an, lorsqu'Addis Abeba avait signé un protocole d'accord avec la région séparatiste du Somaliland pour un accès à la mer. Cela avait déclenché la colère de Mogadiscio. C'était le début d'une escalade diplomatique avant finalement un dégel en Turquie en décembre dernier avec la signature de l'accord d'Ankara. Et pour continuer sur cette voie, une délégation éthiopienne était en déplacement officiel en Somalie hier, Guillaume Thibault.
Présenté comme une étape clé de la normalisation des relations bilatérales par le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, cette visite express, arrivée en fin de matinée, départ dans l'après-midi, d'Abiy Ahmed à Mogadiscio, est avant tout un renvoi d'ascenseur diplomatique, puisque les deux hommes se sont déjà vus mi-janvier à l'invitation du premier ministre éthiopien à Addis Abeba. Dans un communiqué commun diffusé ce jeudi en fin de journée, il est indiqué « L'Éthiopie et la Somalie sont des nations interdépendantes avec un destin commun et une vision partagée pour la stabilité et la prospérité régionale. La collaboration est essentielle pour réaliser nos aspirations communes », a complété Abiy Ahmed sur les réseaux sociaux. Liens diplomatiques, lutte contre les groupes terroristes dans la région ont été évoqués, ainsi que les intérêts économiques, notamment cette volonté de l'Éthiopie d'avoir un accès à la mer. Les autorités somaliennes se sont pour le moment engagées à faciliter le passage des marchandises de l'Éthiopie vers les ports somaliens, en particulier celui de Berbera, situé sur le territoire séparatiste du Somaliland.
Guillaume Thibault, les guérisseurs traditionnels leur confèrent des pouvoirs magiques. Les peaux, crocs ou queues de lion et de léopard sont toujours utilisées en Côte d'Ivoire pour fabriquer des amulettes ou des ceintures, par exemple. Un commerce qui persiste malgré son interdiction. C'est ce que révèle une enquête de l'ONG de protection de la faune, Panthera, publiée au début du mois dans la revue scientifique Animals. L'étude porte sur 46 marchés visités dans tout le pays et dans la moitié d'entre eux, des produits dérivés de léopard ou de lion ont été détectés. Pour le dossier de ce journal, Benoît Almeras a pu observer ce trafic sur un marché du sud d'Abidjan. Reportage.
C'est un carré de peau au poil doré posé sur un étal discret. Les marchands le cachent sous des crânes de chauve-souris et les cuirs d'antilope.
C'est une peau de lion, hein, n'est-ce pas?
Ouais, c'est le lion qui est là. Ouais, on coupe ça 1000 francs, 2000, 3000.
Le peau de lion, quand on le trouve, on le divise, on le partage. Sinon, le complet ne trouve plus. Tout ça, ça disparaît.
La peau entière du lion se négocie autour d'1 million de francs CFA. Des restes transformés ensuite en gris-gris. Kassoum est chasseur d'oiseaux. Pour ce guérisseur, les grands prédateurs ont de grands pouvoirs.
Les lions, les panthères, les lions, ils ont plus de pouvoir plus que les autres animaux. Les gens ont besoin de leur peau pour que quand ils sortent dans la foule, dont les gens, ils ont peur, ils tremblent même.
Pour être craint.
Voilà.
La ville de Korogo, proche du Mali et du Burkina, serait l'un des carrefours de ce commerce. Maxime Kouadio travaille pour Eagle, une ONG de lutte contre le trafic d'animaux.
À Abidjan, il est difficile d'avoir des peaux. Il n'y a qu'à l'intérieur du pays qu'on constate encore qu'il y a des personnes qui s'adonnent à ce genre de pratique. Mais ils sont beaucoup méfiants. S'ils se cachent actuellement, c'est qu'ils ont peur.
Le commerce des restes de lion ou de léopard est aujourd'hui passible de 10 à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Benoît Almeras, Abidjan. RFI.
Et ces peines, justement, ont été durcies en juin dernier. Janvier Aglissi est chercheur pour l'ONG Panthera qui a mené l'enquête. Ce spécialiste béninois de la conservation de la faune sauvage pense qu'il faut renforcer les contrôles, mais aussi mieux connaître ce trafic aux dimensions internationales.
Le contrôle est beaucoup plus strict sur le commerce d'ivoire ou de viande de brousse. Il faut ajouter que la vente de peau de chèvre ou de vache est autorisée et cela permet à certains marchands de dissimuler des peaux de lion ou de léopard. Une dissimulation qui peut être facilitée par la corruption de certains agents. Il faut aussi comprendre les réseaux d'approvisionnement. C'est vrai qu'il y a encore quelques léopards en Côte d'Ivoire, notamment dans le parc national de Taï et le parc national de Komoué, mais il est peu probable que les restes de lions proviennent d'Afrique de l'Ouest car les populations y sont trop limitées. Aujourd'hui, nos hypothèses, c'est que ces restes de grands félins soient issus d'autres régions d'Afrique et qu'ils sont importés en même temps que d'autres produits commerciaux et de faune sauvage. Et pour confirmer cela, nous avons collecté des échantillons en vue d'analyses génétiques.
Janvier Aglissi, tout de suite RFI Matin avec Julien Coquelouet.